Chapitre 9. Samedi 12 août 1989, sixième jour de vacances, ciel de nuit bleu.
Vous savez quoi? Il se passe enfin quelque chose dans mon petit coin de Corse perdu. J'ai quelque chose de neuf à vous raconter dans mon journal, de neuf et de détonnant. J'espère que vous allez aimer ma façon de raconter les histoires. Vous êtes prêts, mon lecteur inconnu? Tout a commencé par un grand boum, précisément à 2h23 du matin. Je le sais parce que la détonation m'a réveillée et que j'ai immédiatement regardé ma montre. J'ai glissé un œil dehors, vers la mer, la presqu'île de la Rebellata, la Balagne, jusqu'au plus haut sommet, le Capo di Abetta. Rien. Puis, je me suis rendormie. Au petit matin, c'était l'effervescence dans le camping. Les gendarmes interrogeaient des touristes plus étonnés que paniqués, feignant de ne pas remarquer le grand sourire accroché au visage des Corses du coin. Le complexe hôtelier La Marina Rocca e Mare avait sauté dans la nuit. Pour vous donner quelques précisions géographiques, la pointe de la Rebellata, c'est une petite presqu'île de 5 km de long et d'un kilomètre de large, presque entièrement sauvage à l'exception de son phare du bout du monde, du petit port de Staresso, de deux ou trois villas blanches, du camping des Eupproctes qui se niche en plein milieu sous les oliviers, avec un accès direct par un petit sentier abrupt à deux plages de poche, celle de l'Alga au sud-est, celle de l'Ocheluccia au nord-est. Côté ouest, il n'y a rien, à part la falaise. On descend direct à pic vers la grotte des Vaux-Marins et l'anse de Recisa, une crique de cailloux squattée par les véliplanchistes. Pour vous donner quelques précisions économiques, presque tout ce petit coin de paradis appartient à un seul homme, mon grand-père, Cassano Idrissi. Même s'il se contente d'habiter avec toute sa famille la bergerie d'Arcano, dans la montagne, un coin isolé avec juste un chemin raide ou une route goudronnée pour y monter, une grande antenne pour capter la télé, de vieilles pierres, un immense chêne vert au milieu de la cour et toutes les odeurs du maquis qui s'accrochent au mur. Pas de chichi, pas de piscine, pas de cour de tennis. Le seul luxe, c'est la vue incroyable sur la baie de la Rebellata. Même le camping appartient à mon papé Cassano. Basile Spinello, le patron, c'est son copain. Il s'occupe de le gérer avec une règle d'or. Pas de mur, ou presque, seulement des douches et des toilettes, des emplacements nus pour planter des tentes, une poignée de bungalows en bois, juste de quoi loger l'été les cousins qui reviennent du continent, les amis, quelques touristes fréquentables. La terre de Papé Cassano, c'est 80 hectares. Il en prend soin comme d'une femme qu'il ne veut pas partager, qu'on peut admirer mais pas posséder, qui ne prendra pas une ride, jamais. Parfumé de ciste et de cédra, maquillé de l'indigo des orchidées sauvages, celles que Mamie Lisabetta adore. Sauf que, si vous avez bien fait attention, vous aurez noté que j'ai dit « presque » quand j'ai dit que tout le coin appartenait à Papé Cassano. « Presque », ça veut dire qu'il lui manque quelques petits coins de rochers face à la mer, au-dessus de la plage de l'Ocheluccia, et en particulier 4000 mètres carrés dont a hérité un vague cousin il y a quelques siècles. Du coup, cette enclave dans le domaine de mon papé est devenue la seule zone constructible de toute la presqu'île. Les enchères ont grimpé en flèche et un promoteur a commencé à faire pousser un complexe hôtelier au milieu des rochers rouges. Un Italien de Portofino, d'après ce qu'on raconte. Un truc grand luxe intégré à la couleur de la pierre, avec terrasse sur la Méditerranée, petit port privé, chambre 3 étoiles, jacuzzi et tutti quanti. Ils ont commencé à construire en mars, sauf qu'illico, les associations corses de défense de l'environnement ont porté plainte, rapport à la loi littorale. Je vous avoue que j'ai pas tout saisi, mais Papé Cassano est capable de parler des heures de ça avec papa. Apparemment, l'enclave est constructible, puisque située à plus de 100 mètres de la mer. Mais les défenseurs de l'environnement ont fait aussitôt valoir la protection des espaces naturels remarquables, rapport à la qualité des paysages, à leur intérêt écologique, à une procédure d'inscription du site, de préemption par le Conservatoire du littoral. Bref, un broglio total. Constructible, pas constructible, la marina? Personne n'en sait rien. Ça se résume à une bataille d'avocats, de journalistes, de fonctionnaires et sans doute aussi à de gros paquets de billets sur la table et sous la table. Mais pendant ce temps, les briques de la résidence Rocca e Mare étaient empilées les unes après les autres sur la dalle de béton coulée par des ouvriers italiens. Tout doucement, sans attendre le jugement qui peut-être déclarerait la construction illégale, dans des années, presque sous le nez de Papé Cassano. Le nez qu'il a plutôt poilu et chatouilleux, je peux vous le confirmer. Jusqu'à cette nuit, 2h du matin. Boum ! Un grand trou dans la dalle de béton. ou ce qu'il en reste. Les ouvriers au petit matin n'ont trouvé qu'un gros tas de gravats. La suite, c'est Aurélia qui me l'a raconté. Aurélia, c'est la fille de Cesareu Garcia, l'adjudant de la gendarmerie de Calvi. Entre nous, on ne peut pas dire que je l'aime beaucoup, Aurélia. Elle a 2 ans de plus que moi et elle s'y croit un peu avec ses grands airs sérieux du genre « c'est la loi et c'est comme ça, et sinon je vais le dire à mon papa ». On dirait qu'elle n'a pas eu d'enfance, qu'elle a tiré le double 6 dans le jeu de loi de sa vie et qu'elle est passée par-dessus les premières cases. Je plains son futur mari, si jamais elle en trouve un. C'est pas gagné pour elle. Aurélia, les garçons la regardent encore moins que moi, c'est vous dire. Y compris Nicolas. Et pourtant, je suis prête à parier que la pauvre, elle craque pour mon grand frère. C'est pas vraiment qu'elle est moche. Elle a des yeux ronds et noirs comme des olives et de gros sourcils qui se touchent presque en haut de son nez et qui lui donnent un air encore plus sévère. C'est plutôt qu'elle est emmerdante. L'inverse de moi, si vous voulez. Je fais trop jeune et elle trop vieille. C'est pas pour ça que ça crée une solidarité entre nous deux. Oh non, croyez-moi. Plutôt une compétition, je dirais. Deux façons de s'adapter. Peut-être qu'on se retrouvera dans des années et qu'on verra qui a gagné. Mais sur ce coup-là, au matin du grand boom, j'étais très contente qu'Aurélia me dise, avec sa voix pincée et ses grands airs, « Mon père est allé voir ton grand-père Cassanou. Tout le monde sait que c'est lui qui a fait sauter la marina. »
Hein ?
Mais personne dira rien, bien entendu. L'omerta. L'omerta, dit mon papa. Tout le monde ici doit quelque chose à ton grand-père. Basile en premier, le patron du camping. Ils étaient à l'école ensemble. Tu te rends compte ? Il pose une bombe, on sait que c'est lui et personne dit rien. Ça m'amusait d'imaginer son petit papa, enfin son gros papa, parce que Cesareu, il faut le voir. Il pèse le poids d'un taureau corse. Monter dans sa petite camionnette de gendarme pour aller causer à mon papé, en sueur, les genoux tremblants, comme une petite souris allant négocier un coin de grange face au chat de la maison. Je l'ai mouché. « Il n'y a pas de preuve contre mon papé. Ton père a dû te dire ça. » « Oui, il me l'a dit. » J'ai enfoncé le clou. « Et puis, ceux qui ont posé les bombes, ils ont raison, non ? C'est plus joli la Corse sans le béton. » Si on attend la fin du procès, les magouilles, l'administration, ils auront 1000 fois le temps de la défigurer, la rebellata, et tout le reste de l'île, tu crois pas ? Aurélia n'a pas d'opinion. Jamais. Mais là, elle m'a tout de même répondu. Si, mon père m'a dit ça aussi, que Cassanou a eu raison de faire ça, même s'il n'avait pas le droit. Là, c'est elle qui m'a mouchée. J'y ai repensé toute la journée. J'ai même croisé Papé en grande conversation avec Basile Spinello à l'entrée du camping, avec des allures de comploteurs qui ne font pas vraiment peur. Quelques voitures de gendarmerie circulaient. On parlait de l'explosion à la radio, un peu. Et tout fut confirmé à la fin de la journée. Personne n'avait rien vu, rien entendu, affaire classée. La baie de la Rebellata retournera aux goélands, aux chèvres, aux ânes, aux sangliers et aux euproctes. Ce soir, je suis restée de longues minutes dans la grotte des Vaumarins à regarder la mer et le soleil se coucher sur la baie de la Rebellata. Trop belle en rouge et or. Trop fière j'étais. Tant que mon papé sera là, elle restera ainsi ma baie. Sauvage, préservée, rebelle. Comme moi. Pour toujours, hein, mon lecteur du futur. Pour toujours, promettez-le-moi.
Pour toujours. Quelle petite sotte. Il referma le cahier.